La parole par les nos points 2. Galates 5, l'évangile perverti, la nature pervertie. Le 26 janvier 2011. Le pasteur Brian Kozurek. Ce soir, nous parlerons du livre de Galates qui commence au chapitre 5. Comme nous avons trouvé Paul parler de l'esprit d'adoption au chapitre 4. Plutôt et ensuite il nous est laissé savoir que ce n'est pas tout le monde qui est né de nouveau qui est adopté, mais nous devons être le bon genre de fils, car d'Abraham il y a eu deux fils, et deux alliances, une alliance pour ceux qui sont nés selon la chair et une autre alliance pour ceux qui sont nés selon l'esprit. Maintenant, une alliance est un contrat, un accord ou bien se faire des arrangements. L'alliance fait appel à certaines actions ou des obligations du côté des deux parties. Nous avons vu que cette alliance a établi une obligation des œuvres, c'est-à-dire, si vous faites, je ferai une sorte d'œuvre. L'autre alliance qui était une alliance par la promesse, Néhémie fait aucune référence aux œuvres, mais elle a mis l'accent sur une attitude de grâce et de miséricorde. Ce soir, nous allons davantage étudier cette lettre Galate, qui a parlé de cette adoption de fils, et nous allons examiner en outre les deux alliances. Galate 5, attenez-vous donc ferme dans la liberté avec laquelle Christ nous a rendus libres, et Néhémie vous empêtrez plus sous le joug de la servitude. Version française de Roi Jacques. Maintenant, il est très clair ici que l'apôtre Paul fait une distinction entre ces deux alliances, et donc les deux genres différents de fils. Et le fils par promesse doit faire une seule chose ici, et cette chose c'est de se tenir vite dans la liberté. Maintenant, pourquoi l'apôtre Paul voudra faire cette déclaration comme se tenir vite dans la liberté? La raison est que quand les gens sont pressés ou oppressés, ils commencent à renoncer, s'ils n'y sont pas certains. Comme nous voyons aujourd'hui ces gens qui sont si disposés à abandonner leur liberté au profit de la sécurité. C'est ce qui est arrivé à ce pays et à beaucoup d'autres. Les gens s'asseyent passivement pendant que la soi-disant élite conspire de les amener sous la servitude d'une façon ou d'une autre. Toutes ces situations doivent venir jeter une ombre de peur sur les gens, et ensuite leur promettre la sécurité. Mais pour leur accorder la sécurité, les gens doivent être disposés à abandonner leur liberté. Maintenant, ce n'est pas un stratagème qui est fait en politique, mais si vous regardez l'histoire partout, vous trouverez que l'Église a fait la même chose. L'Église catholique a contraint les gens de s'incliner devant des idoles et de rendre hommage à ses chefs à elle. Et ainsi, elle a étouffé la liberté des peuples, en leur promettant la sécurité dans l'Église. Et ensuite, quand les gens commencent à fléchir leur liberté, l'Église est devenue l'exécutrice qui utilise le terrorisme comme un moyen pour contrôler les gens, comme les chefs politiques ont utilisé dans les deux dernières décennies passées, en emprisonnant les gens sous une passivité qui n'a mis fait aucune tolérance pour la liberté. La liberté se fane ou elle est liquidée ou utilisée dans le paiement pour acheter la sécurité, parce que la sécurité a toujours un prix, comme elle paraît dans la religion et la politique. La liberté meurt. Donc l'apôtre Paul nous prévient de prendre une position ferme dans notre liberté, sinon notre liberté cédera la voie à l'esclavage. Verset 2 voici, moi Paul, je vous dis, que si vous êtes circoncis, Christ Néhémie vous servira à rien. 3 car je l'atteste de nouveau à tout homme qui est circoncis, qu'il est tenu d'accomplir toute la loi. 4 Christ est devenu sans effet pour vous. Vous tous êtes justifiés par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Remarquez, Paul a vu que les œuvres de la circoncision humaine deviennent une œuvre d'esclavage sur les gens. Les gens ont été libérés gratuitement de la loi sous Christ, Car un don gratuit est libre, en effet il n'exige aucun paiement en retour. Mais le juif a fait un signe de la circoncision dans sa chair, et étant un signe dans sa chair, il a essayé dans sa chair d'obéir à la loi. Mais comme Martin Luther l'a signalé, si la loi était pour la chair, alors elle pourrait être satisfaite par la chair. Mais étant donné que la loi est spirituelle, elle n'y peut pas alors être satisfaite par la chair. Martin Luther dans sa préface au livre des Romains a dit, « Dieu juge d'après ce qui est au fond du cœur. » Et, pour cette raison, sa loi fait ses exigences sur le cœur le plus profond et Néhémie peut pas être satisfaite des œuvres, mais plutôt punit les œuvres qui sont faites autrement que du fond du cœur, comme l'hypocrisie et le mensonge. L'apôtre Paul nous a dit dans Romains 7, 14 « Car nous savons que la loi est spirituelle, et ainsi, étant donné que la loi est spirituelle, elle doit être satisfaite par ce qui est spirituel, à savoir les motifs et les objectifs de notre cœur. » Martin Luther a dit, « Si la loi avait été faite pour le corps, elle pourrait être satisfaite des œuvres, mais puisqu'elle est spirituelle, personne ne peut la satisfaire, à moins que tout ce que vous faites soit fait du fond du cœur. Mais un tel cœur est donné par l'Esprit de Dieu, qui fait qu'un homme rend un homme égal à la loi, afin qu'il acquiert un désir pour la loi dans son cœur. Et dorénavant Néhémie fait rien par la peur et par la compulsion, mais tout un cœur disposé. Et c'est notre clé pour l'adoption, et l'esprit d'adoption, la condition du cœur. Martin Luther a continué à dire, cette loi alors est spirituelle, laquelle sera aimée et sera accomplie avec un tel cœur spirituel, et exige un tel esprit. Là où cet esprit n'est pas dans le cœur, là demeure le péché et le déplaisir avec la loi, et l'inimitié vers elle, bien que la loi soit bonne et saillie et sainte. Maintenant, nous voyons dans le livre d'Ézéchiel que Dieu a dit, Ézéchiel 36, 26 « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel 11, 19 « Et je leur donnerai un même cœur, et je mettrai un esprit nouveau au-dedans de vous, et j'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » 57-0120ml.imitation.adu.christianisme-jeff.in V8 N de dimanche souligné 110. Ils disent, oui, c'est sûr, je n'aime veux pas aller en enfer. Je veux accepter Christ. C'est bien. C'est bon. Ce n'est que le premier pas. 111 Ensuite il a dit, après ça, ensuite je vous donnerai un esprit nouveau. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau désir. Je veux faire ce qui est bien. 112 Maintenant, je sais que je suis chrétien. Et ensuite il a dit, mais, donc, ça, c'est l'esprit nouveau. 113 Ensuite, remarquez l'ordre de l'écriture. Après qu'il a donné un cœur nouveau et un esprit nouveau, il a dit, ensuite je mettrai mon esprit. Maintenant quoi? C'est ce que l'écriture dit ici. C'est ça l'ordre. L'ordre pneumatique et numérique de l'écriture, un cœur nouveau, un esprit nouveau, et ensuite mon esprit. Vous voyez? Dieu traite avec nos cœurs et non avec notre chair. Donc il n'importe pas vraiment comment bien vous paraissez être dans votre chair. Dieu discerne les pensées et les intentions du cœur. Par conséquent, le péché, dans l'écriture, Néhémie signifie pas seulement les œuvres extérieures du corps, mais toutes les activités qui déplacent les hommes vers les œuvres de l'extérieur, à savoir le cœur le plus profond, avec tous ses pouvoirs. De l'autre côté, la foi est une façon de vivre, la confiance audacieuse dans la grâce de Dieu, tellement sûr et certain qu'un homme en miserait sa vie mille fois. La foi n'estère pas cette notion de l'être humain, un rêve que certains tiennent pour la foi. Cependant, la foi estère une œuvre divine en nous. Elle nous change et rend des hommes tout à fait différents, dans le cœur, l'esprit et les pouvoirs, et elle apporte avec elle le Saint-Esprit. Martin Luther. Frère Branham, en citant Hébreux 10, 2 dans son sermon, montre-nous le Père et cela nous suffira du 31.07-60p. 56. Il a dit, l'adorateur une fois purgé n'a plus aucun désir du péché. La Bible dit, conscience. Ce qui à vrai dire signifie le désir. Un adorateur une fois qu'il ait posé ses mains sur la tête de Jésus-Christ par la foi, et qu'il ressente ce frémissement écharné comme l'homme faisait sur l'agneau, mourant, pleurant, un innocent, et de tout votre cœur, croyant que le Fils de Dieu est mort à votre place, et lorsque vous faites cette confession, le Saint-Esprit, de cette cellule de sang qui vous est sanctifiée, entre dans votre vie, et vous êtes une nouvelle création en Christ Jésus. La vie de Dieu est en vous, et il vous a adopté, et vous êtes un fils de Dieu. Amen. Néhémie, soyez pas effrayés. Amen signifie, qu'il en soit ainsi. Cela Néhémie vous blessera pas. L'expectative 30.09-51p, 21. Or, David a dit dans les Saintes Écritures, quand la profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. En d'autres termes, quand il y a un désir ici, il y a quelque chose qui cause là-bas. En d'autres, ici, avant qu'il y ait un désir ici, il doit y avoir quelque chose qui crée ce désir. Voyez? Et s'il y a un créateur pour créer ce désir de cette création? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce que nous regardons à cette alliance de vie, est-ce qu'elle n'émitrait pas de la chair comme l'autre alliance, tu fais ceci et je ferai ceci? Mais elle traite des motifs et des objectifs qui viennent du cœur. Galates 5, 5. Car nous, par l'Esprit, attendons l'espérance de la droiture par la foi. Nous attendons à travers l'Esprit de Dieu dans l'anticipation, ou nous attendons avec l'expectative. L'état correct de sagesse qui vient par révélation. C'est la raison pour laquelle la révélation de Jésus-Christ est si importante pour nous, parce qu'elle apporte avec elle une compréhension et un état correct de sagesse dans l'âme, dans le cœur, dans notre esprit. Et cet état correct de sagesse alors commence à se déplacer dans nos corps dans la bonne direction, ou dans la volonté de notre Père Céleste. Remarquez ce que Paul veut dire au verset 6, car en Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision, n'ont de valeur, mais la foi qui œuvre par amour. Vous voyez, il parle d'un acte de la chair, donc si nous avons cet acte dans la chair pour confirmer notre position avec Dieu ou si nous n'avons pas cet acte dans notre chair, ça n'importe pas, mais ce qui importe réellement, c'est notre foi. Et cette foi qui estère la révélation fonctionne par le bon motif qui estère l'amour. Lisons encore cela, 6. Car en Christ Jésus, ni circoncision, votre confirmation dans votre chair, ni incirconcision, n'ont de valeur si vous n'avez pas cette confirmation dans votre chair, mais la foi, la révélation de Jésus-Christ, qui œuvre par amour. Et nous aimons du cœur. Donc Paul parle de que ce qui motive votre cœur, et c'est l'amour. Ensuite, il dit au verset 7 « Vous courriez bien, qui vous a empêché de continuer pour que vous n'obéissiez pas à la vérité ?» En d'autres termes, vous courriez bien dans cette course, mais qui est intervenu en vous pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? 8. Cette persuasion Néhémie vient pas de celui qui vous appelle. Maintenant, Paul revient à son premier argument qu'il a donné au chapitre 1, 6-9 Je suis stupéfait, que vous vous soyez si rapidement éloigné de celui, en d'autres termes. Il dit, je suis étonné que vous avez abandonné celui, qui vous a appelé en la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. La Bible anglaise dit, à un évangile différent. Trad. À un évangile qui a une nature différente. Cette qui n'en estère pas un autre, mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. 8 Mais si nous, ou un ange du ciel, vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. 9 Comme nous l'avons déjà dit, ainsi maintenant je le dis à nouveau, si un homme vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. 10 Car maintenant, est-ce ce que je persuade les hommes, ou Dieu, ou est-ce ce que je cherche à plaire aux hommes? Car si je plaisais encore aux hommes, je n'y serais pas serviteur de Christ. 11 Mais je vous certifie, frères, que l'évangile qui a été prêché par moi n'est pas selon l'homme. 12 Car je l'ai ni reçu de l'homme, ni n'ai appris par enseignement, mais par la révélation de Jésus-Christ. Maintenant, ce qui s'est passé dans cet âge de l'Église que Paul a vu venir, n'était pas ainsi une chose aveugle pour lui. Il a vu les petites torsions ici et là, et il a pu voir que la même parole qu'il a enseignée était subtilement changée, si bien qu'elle avait pris une signification différente à ce qu'il avait reçu de Jésus-Christ et à ce qu'il avait donné aux gens. Maintenant, souvenez-vous, dans cette lettre Galate, Paul parle principalement sur l'esprit d'adoption et la nature et les caractéristiques du bon genre de fils et les autres fils qui n'est mis sont pas dignes d'être héritiers et colossiens héritiers avec Jésus-Christ. Donc, nous voyons que le critère pour l'adoption est recevoir l'héritage c'est-à-dire le fils premier-né, et le chemin à cet héritage vient à travers la parole qu'il a prêchée, de laquelle quelques-uns s'étaient faufilés dans le troupeau et l'ont tordu, au point qu'elle amenait dans les gens une nature tordue, et non la nature de Christ. Mais elle a apporté avec elle un mauvais esprit, une nature qui persécuterait le juste, comme nous voyons plus tard dans cette lettre au chapitre 4. Frère Branham nous a aussi dit qu'il n'a dit que ce que Paul a dit, et Paul a dit, nous devons correctement diviser, la parole de la vérité, et comme nous le voyons dans cette lettre Galate, les gens étaient déjà dans cet âge qui commençait à dévier de la vraie nature de ce que Paul disait, une déviation ainsi de cette semence originelle. Ils acceptaient la vie d'une autre semence, une autre alliance. Et entre-temps, le deuxième âge de l'Église est revenu autour où il y avait tandisme dans le message, qu'Irénée a écrit ses livres pour montrer carrément comment loin ils avaient dévié du message que Paul avait apporté. Dans ses écrits, Irénée a dit, il y a de l'importance dans l'ordre et l'enchaînement de l'écriture. Frère Branham nous a également dit qu'il n'a dit que ce que Paul a dit, et Paul a dit, nous devons dispenser droitement la parole de vérité de Timothée 2, 15, et dans le second âge de l'Église, Irénée a dit, il y a de l'importance dans l'ordre et dans l'enchaînement des Écritures. En conséquence, nous devons garder la vraie signification de l'Écriture et nous ne devons pas y conférer nos propres interprétations, en pensant avoir trouvé un grand secret profond dans l'Écriture, lequel secret n'est pourtant pas là. L'apôtre Pierre a dit la parole de Dieu Néhémie doit pas être l'objet d'une interprétation particulière. Pourquoi? Parce que Dieu interprète sa propre parole en l'accomplissant. Or, vous devez toujours vous rappeler ceci, l'alpha est devenu l'oméga et ce qui est arrivé dans le premier âge de l'Église doit se répéter dans le dernier âge. Et ce qui est arrivé dans le premier âge Esther, ils ont abandonné leur premier amour, et notre premier amour, d'après Deutéronome, Esther d'avoir un seul Dieu, et de le servir lui seul de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre âme. Ainsi, s'ils se sont égarés dans cette compréhension dans le premier âge, Néhémie le feront-ils pas à nouveau dans le dernier âge où Dieu visite une fois encore la terre pour se faire connaître dans la révélation de Jésus-Christ? Après tout, ce Néhémie sont pas ceux qui étaient les élus de Dieu qui s'y sont allés, mais c'est Esther l'Église qui s'y est allée. C'est Esther pourquoi? Pour commencer notre étude sur ces erreurs, il nous faut voir ce qui est Esther arrivé dans l'Alpha. Le Dieu qui est Esther riche en miséricorde 65-019, paragraphe 33 et donc, nous voyons que nous en sommes arrivés à un autre Éphésien, un autre Éphèse maintenant. Alors, que nos dénominations intellectuelles et tout, et nos programmes pédagogiques, que toutes ces choses sont arrivées à l'heure, leur jour d'un, alors nous devons avoir de nouveau un Éphésien. Nous devons avoir un exode, pour sortir et entrer dans, pour l'enlèvement. Et qu'Esther ce qui Esther arrivait à l'église dans l'âge de l'église d'Éphèse? Apocalypse 2, 1-5, à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, ces choses, dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, de je connais tes œuvres, et ton travail, et tes patience. Et comment tu Néhémie peut supporter ceux qui sont méchants? Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et Néhémie le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs, trois et tu as supporté, et eu de la patience. Et tu as travaillé pour l'amour de mon nom, et tu n'as pas défailli, quatre néanmoins j'ai quelque chose contre toi. Parce que tu as délaissé ton premier amour. 5. Souviens-toi donc d'où tu es aille tombé, et repens-toi, et fais les premières œuvres, sinon je viendrai rapidement à toi, et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu n'aies mis te repentes. Or, ce que j'essaie de vous dire Esther, que ce qui Esther arrivait dans le premier âge de l'Église doit se répéter. Et pour connaître comment Esther terminait le premier âge de l'Église, nous devons regarder au second âge pour voir dans quel état l'Église était. Laissez-moi alors vous lire d'abord ce qu'Irénée a dit dans son premier livre intitulé « Irénée contre les hérésies », livre 1, concernant ceux qui propageaient des erreurs concernant la divinité dans le premier âge de l'Église. Maintenant, la raison pour laquelle j'apporte ceci, c'est Esther parce que nous voyons Paul lancer l'avertissement dans Galates 1 et ensuite au chapitre 2. Il parle des faux frères qui s'étaient furtivement introduits dans le message alpha à l'improviste et ont apporté avec eux des hérésies damnables. Galates 2, 1 puis, 14 ans plus tard, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et pris aussi Tite avec, moi. 2 et j'y montais par révélation, et je leur communiquais l'évangile que je prêche parmi les gentils, mais en privé à ceux qui étaient les plus estimés, afin qu'en quelque sorte je n'aie mis court ou n'aie couru en vain. 3 Cependant, même Tite qui était avec moi, bien que grec, Néhémie fut pas contraint à être circoncis. 4 Et cela à cause de faux frères, subrepticement introduits, qui s'était glissé parmi nous pour épier notre liberté que nous avons en Christ Jésus, afin de nous ramener à la servitude. Maintenant, pour éviter de passer trop de temps dans ce chapitre, parce qu'après tout, si nous avions pris cette lettre entière aux Galates, comme nous l'avons fait avec le livre des Romains où nous avons prêché 142 sermons et nous avons passé 2 ans sur ça. Mais je parcours juste les grands points pour que nous puissions comprendre que cette lettre aux Galates est une lettre concernant l'esprit et le chemin d'adoption, et ce que cela entraîne pour le croyant. Vous pouvez lire le reste de Galates chapitre 2 pour votre exercice à la maison. Maintenant, en revenant à ce qu'Irénée a rencontré parmi les gens, comment loin il s'était déjà écarté de la semence originelle que Paul avait plantée, parce qu'il pouvait voir la nature de ceux qui prétendaient croire le message, et cependant, comment ils étaient devenus loin du messager originel dans leur propre esprit. Nous voyons Irénée qui continue en disant, dans la mesure où certains hommes ont rejeté la vérité et ils ont introduit des paroles mensongères et de vaines généalogies, Lesquels? Comme le dit l'apôtre, il veut dire Paul. Le prédicateur met en doute plutôt que d'édifier pieusement ce qui est stère dans la foi. Et, au moyen de leur plausibilité construite avec ruse, ils égarent les pensées des hommes inexpérimentés, et ils les tiennent captifs. Je me suis senti contraint, mon cher ami, de déjouer leur machination. Paul n'a pas utilisé ce mot machination, mais il a utilisé la définition du mot machination quand il a dit les mots habileté ingénieuse par laquelle il monte en attente pour tromper. Maintenant, Irénée continue, ces hommes falsifient les oracles de Dieu et ils se démarquent eux-mêmes comme étant de mauvais interprètes de la bonne parole de la révélation. Ils renversent également la foi d'un grand nombre en les égarant sous prétexte qu'ils ont une connaissance supérieure qui leur vient de celui qui a arrondi et orné l'univers, comme si, en vérité, ils avaient quelque chose de plus excellent ou de plus sublime à révéler, qui dépasse ce Dieu qui a créé le ciel et la terre et les choses qui s'y trouvent. Or, Paul a dit la même chose dans 2 Corinthiens 11. Quand il les appelle les apôtres les plus importants. 3 Mais je crains que, en quelque sorte, comme le serpent trompa Ève par sa ruse, de même vos pensées Néhémie soient corrompues se détournant de la simplicité qui est Esther en Christ. La Bible anglaise dit, vous détournant de votre sincère et pure dévotion à Christ trad. 4 Car si celui qui vient prêche un autre Jésus, que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile, que vous n'avez pas accepté, il se pourrait bien que vous le supportiez. 5 Car je suppose que je n'étais pas un point derrière les apôtres les plus importants. 6 Même si je suis fruste quant au langage, toutefois je n'ai aimé le suis pas quant à la connaissance, mais nous avons été entièrement manifestés parmi vous en toutes choses. Ainsi, vous voyez que quelqu'un s'estère, introduit et a commencé à changer la signification du message aux gens, et Paul l'a vu venir, et Irénée a vu la manifestation de ce changement de la semence, parce qu'il a vu l'exposition de la nature dans les gens, et ce n'était pas la même que la semence originelle. Donc en revenant à Irénée, nous l'entendons continuer à dire, donc, par des moyens spécieux et des paroles plausibles, ils séduisent astucieusement les simples d'esprit, ils les incitent à examiner leur système, mais ils les détruisent maladroitement alors qu'ils les initient à leurs opinions blasphématoires et impies concernant la création. Et ces hommes simples sont incapables, en pareil cas, de faire la différence entre la fausseté et la vérité. 2. L'erreur. En fait, elle n'est jamais présentée dans sa difformité nue, de crainte qu'une fois exposée de cette manière, elle soit tout d'un coup détectée. Mais elle est astucieusement ornée d'habits attrayants, de telle sorte que, par sa forme extérieure, elle apparaisse pour les gens sans expérience, l'expression peut sembler ridicule, plus vraie que la vérité elle-même. Une imitation intelligente dans un verre donne de la satisfaction, comme si c'était, sur ces pierres précieuses, de l'émeraude, qui est très, hautement estimée par certains, à moins que ça passe sous l'œil de quelqu'un qui peut tester et démasquer la contrefaçon. Ou encore, quelle personne inexpérimentée peut détecter avec aisance la présence de l'airain, une fois qu'il a été mélangé avec de l'argent? De peur donc que par ma négligence, certains puissent être emportés au loin, comme les brebis sont emportées par des loups, quand ils n'y voient pas le vrai caractère, car de l'extérieur, ils sont vêtus de peau de brebis, hommes contre lesquels le Seigneur nous avertit d'être vigilants, et parce que leur langage ressemble au nôtre, alors que leurs sentiments sont très différents, j'ai trouvé qu'il est stère de mon devoir, après avoir lu quelques-uns des commentaires, comme ils les appellent, des disciples de Saint-Valentin, et après avoir moi-même pris connaissance de leurs principes, par des rencontres personnelles avec quelques-uns d'entre eux, de te dévoiler, mon ami, ces mystères profonds qui sont de mauvais augure, et qui n'y sont pas à la portée de toute intelligence, car tous n'ont pas suffisamment purgé leur cerveau. Je fais ceci pour que toi, après avoir pris connaissance de ces choses, que tu puisses éviter un tel gouffre de folie et de blasphème contre Christ. Je voudrais donc, au mieux de mon pouvoir, avec brièveté et clarté, présenter les opinions de ceux qui sont actuellement en train de répandre cette hérésie. Je fais spécialement allusion aux disciples de Ptolémée, dont l'école peut être décrite comme un bourgeon de celle de Valentin. Je m'efforcerai également, selon ma capacité modérée, de donner des moyens de les renverser, en démontrant combien leurs déclarations sont absurdes et inconsistantes par rapport à la vérité. Cela ne me veut pas dire que je suis expert, soit dans la rédaction ou dans l'éloquence. Mais mon sentiment d'affection me pousse à vous faire connaître, toi et tes compagnons, ces doctrines qui étaient tenues cachées jusqu'à présent, mais qui sont enfin, par la bonté de Dieu, mises en évidence. Car il n'y a rien de caché qui n'ait mis puisse être révélé, ni de secret qui n'ait mis puisse être divulgué. 1. Au chapitre 7. Comment les Valentiniens pervertissent-ils les Écritures pour soutenir leurs propres pensées pieuses? 1. Cestère ainsi donc était à leur système, lequel n'a été ni annoncé par les prophètes, ni enseigné par le Seigneur, ni même donné par les apôtres, mais au sujet duquel ils se vont être au-dessus de tous les autres, disant avoir une connaissance parfaite. Ils tirent leur point de vue à partir des sources autres que les Écritures, et pour faire usage d'un proverbe courant, ils essayent de tisser des cordes de sable alors qu'ils essaient d'adapter, avec un air de probabilité à leurs assertions particulières, les paraboles du Seigneur, les dires des prophètes et les paroles des apôtres, afin que leur plan ennemi puisse pas sembler être dépourvu de tout soutien. En faisant cela, cependant, ils n'y tiennent pas compte de l'ordre et de l'enchaînement des Écritures, tout comme dans leurs mensonges. Ils démembrent et détruisent la vérité, en altérant des passages de l'Écriture et en les habillant à nouveau, et en faisant d'une chose une autre, ils parviennent à induire pas mal acquis de personnes en erreur à travers leur science malicieuse, en adaptant les oracles du Seigneur à leurs opinions. Leur stratégie ressemble à celle de quelqu'un qui, après qu'une belle image d'un roi Esther construite par un artiste habile à partir des pierres précieuses, cette autre personne viendra dépiécer complètement cette image d'homme et il va réarranger ses pierres précieuses, et il les fera ainsi emboîter parfaitement de manière à en faire une image d'un chien ou d'un renard. Toutefois cette image n'émise serait que de qualité minable, et cet homme va par la suite soutenir et déclarer que c'était ça l'image du roi qui avait été construite par l'artiste habile. Il vous présentera donc les pierres précieuses qui avaient admirablement été emboîtées par le premier artiste pour former l'image du roi. Image qui a été changée avec un mauvais effet par cet autre artiste en l'image de chien et par cela en exhiber les pierres précieuses. Il va séduire les ignorants qui n'ont aucune idée de ce qu'était la forme de roi. Et il va les convaincre à croire que cette image misérable de renard était en réalité la belle image de roi. De la même manière, ces personnes collectionnent des fables de vieilles femmes, puis ils essaient, en détournant brusquement, à partir de leur propre enchaînement, les mots, les expressions et les paraboles, à quelques moments qu'ils en trouvent, pour adapter les oracles de Dieu à leur fiction sans fondement. Nous avons déjà vu comment ils continuent dans cette voie, concernant l'intérieur de la plénitude. À présent, après avoir lu la description, d'après Irénée, de leur pratique et de leur technique d'enseignement, nous devrons tout d'abord être capables de voir comment il se fait qu'ils soient capables de faire basculer les pensées des gens de la vérité vers l'erreur. C'est-à-dire parce que les ignorants, tels qu'Irénée les appelle, ils n'y connaissent pas la vérité, ils s'ouvrent donc eux-mêmes à l'erreur. Ceci me rappelle une sœur qui, il y a des années, avait dit, du moment que Jeunéhémie comprend pas, Jeunéhémie puis être tenu pour responsable, mais il fut repoussé par mon bon ami, Fervel qui lui a dit, bien au contraire, ma sœur, vous êtes responsable, vous auriez donc dû en savoir mieux. Combien de gens insensés vont essayer de tordre les paroles de frère Branham? Les unitaires croient qu'il est stère trinitaire, tandis que les trinitaires croient qu'il est stère unitaire. Les autres essaient de lui faire dire des choses qu'il n'a jamais dites, et certains déclarent qu'il a enseigné que vous n'avez pas besoin de comprendre. Il vous faut tout simplement croire. Il nous a explicitement enseigné que seuls les élus vont comprendre. Car comment pouvez-vous croire sans connaître ce que vous croyez? Maintenant, j'espère que vous comprenez combien il est important de connaître la vérité, car la vérité vous rendra libre. Non seulement vous devez connaître la vérité, mais vous devez également l'aimer. Car si vous n'aimez l'aimez pas, c'est Esther la même que vous vous placez en position d'être séduit. De Thessaloniciens 2, 10-12, 10 en toute séduction d'iniquité dans ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, afin qu'ils puissent être sauvés. 11 Et pour cela Dieu leur enverra une forte illusion, pour qu'ils croient au mensonge. 12 Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'iniquité, soient damnés. Et ici, nous voyons donc que puisque qu'ils n'ont pas d'amour pour la vérité, Dieu lui-même va leur envoyer le puissant égarement qui leur fera quitter la vérité. Or, si vous pensez pendant une minute que vous êtes plus que capable de résister contre ce que Dieu envoie, vous auriez mieux de n'aimer pas faire l'imbécile. Dieu surveille toujours votre attitude. Rappelez-vous, il connaît même tes pensées les plus profondes. Et il te faut l'aimer de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Sinon tu t'exposes toi-même à la séduction. Et Timothée 4, 1-2. Or l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs, et à des doctrines des démons, de disons des mensonges par hypocrisie, ayant leur conscience cautérisée au fer rouge. Ce sont des mensonges hypocrites, car ils en savent mieux, mais ils refusent d'enseigner la vérité. Les Écritures Néhémie nous disent pas que quelqu'un abandonnera une foi quelconque, mais elles disent, la foi, et nous savons que cette foi vient d'une révélation. Éphésiens 4 nous dit, il y a un seul Seigneur et un seul foi aux révélations, et nous savons par l'Écriture que cette seule révélation est la révélation de Jésus-Christ. En conséquence, cette séduction devra être en rapport avec cette seule vraie révélation. En outre, elle viendra par l'entremise des doctrines de démons. C'est pourquoi cette doctrine sera l'erreur concernant la divinité et c'est ça qui produira l'erreur dans le peuple. En d'autres termes, comme il en était autant d'Élie, les faux ministères de ce jour-là avaient réussi à amener le peuple d'Israël à adorer Dieu d'une mauvaise manière et ceci étant, adorer Dieu en dehors de la vérité, c'est en fait adorer d'autres dieux. C'est pourquoi ils avaient adoré Baal, ce qui en fait signifie Seigneur. Ainsi, quand ils parlent d'adorer le Seigneur, si leur adoration est basée sur une compréhension erronée, ils sont en fait en train d'adorer un faux Seigneur, et ce qui est malheureux, c'est que même Néhémie le savent même pas. Mais vont-ils ouvrir leur cœur pour écouter? Jamais. Car Jésus a dit que la raison pour laquelle ils n'aiment ils voudront pas recevoir la vérité Esther qu'en eux. Ils n'ont pas de place pour la vérité. Irénée a mentionné que l'enchaînement incorrect des Écritures donnera une fausse présentation du seul vrai Dieu en conséquence. Ça présentera un Seigneur perverti. Dans Jean 4, 22. Jésus a dit, les païens adorent ce qu'ils n'aiment ils connaissent pas et il a dit, mais nous savons ce que nous adorons. Et c'est ça la clé. Il vous faut le connaître, lui que vous adorez? Sinon vous ferez naufrage dans votre incrédulité. Plus loin, il a déclaré, ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ainsi donc, sans la vérité, votre adoration est vaine. Vous devez adorer Dieu en esprit et en vérité. L'adoration sans la vraie révélation, elle est satanique, et Dieu ne va pas révéler quoi que ce soit sans que cela vienne par son prophète. En conséquence, toute révélation qui vient en dehors du canal confirmé de Dieu, elle fait partie de cette puissante séduction. Dans 1 Jean 3:12, nous voyons que Caïn a tué son frère parce que ses œuvres étaient mauvaises. Il n'y est pas dit que la tuerie elle-même est ce qui était mauvais. Mais la raison pour laquelle il a tué son frère est que ses propres œuvres étaient mauvaises. Et quelles étaient ses œuvres? Son offrande à Dieu sans une révélation confirmée. Il a offert une offrande de prémices, premier fruit, ce qui était parfaitement scripturaire, et en fait, c'était une offrande de résurrection, mais c'était hors saison. Et ça ne veut pas dire qu'il n'en savait pas mieux. Il a donné le nom d'Enoch à son fils premier-né, et Sester c'est le nom du premier saint à être enlevé. Mais la révélation de Caïn, et par conséquent son offrande, était jugée mauvaise parce que ce n'était pas la révélation pour cette heure-là, et en fait, la révélation avec laquelle Dieu était lui-même descendu. Si vous avez bonne mémoire, l'Éternel était descendu avec un cri dans le jardin d'Éden. Et qu'avait-il révélé à Adam à travers ce cri ou message? De savoir que puisque le sang du serpent s'était mélangé avec le sang d'Ève, alors il faut que le sang soit exigé comme expiation, et Caïn a refusé le message confirmé de Dieu et la révélation pour cette heure-là. Dans Genèse 4, 7. Après, nous voyons que Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. Il a dit à Caïn, si tu fais bien, Néhémie serais-tu pas agréé? Le Septuagint rend ça comme ceci, si tu fais bien, Néhémie serais-tu pas agréé? Tu as offert correctement, mais tu n'as pas divisé correctement. Remarquez quelle grande importance Dieu place dans le fait de diviser correctement ses paroles. La révélation de Caïn fut rejetée et jugée mauvaise parce qu'il n'avait pas divisé la parole de vérité correctement. C'est pour cette raison que nous voyons, dans Galates et dans 2 Corinthiens 11. Paul parle si sévèrement au sujet des gens qui se sont levés avec n'importe quelle vieille chose. Il a dit que ça faisait qu'ils prêchaient un Jésus complètement différent, et que les Écritures qui étaient présentées d'une manière tellement pervertie qu'elles ont pris notre nature, et en conséquence cela a apporté un esprit complètement différent. Et c'est ce qu'Irénée a montré dans son illustration des hommes qui fabriqueraient une image d'un chien ou d'un renard et qui les feraient passer aux ignorants pour l'image d'un roi. Vous parlez d'ignorance. Comment pouvez-vous confondre un chien avec le roi de gloire? Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Maintenant, revenons en arrière et prenons dans Galates chapitre 5 et verset 9 où nous allons finir sur ceci ce soir, 9 un peu de levain fait lever la pâte tout entière. Maintenant, étant donné que cela pourrait prendre un sermon entier à prêcher, nous allons partir et on se verra dimanche. Alignons nos cœurs et nos têtes dans un mot de prière. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, avril 2012. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site internet à briancocourec@yahoo.com.